patron d'école. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un très très grand plaisir de reprendre cette année les conférences et puis de vous voir très nombreux dans cet amphi qui a été quand même désert pendant pas mal de temps, où les choses ont repris doucement, mais là c'est presque plein et c'est vraiment formidable. Donc voilà, on est très contents. Je suis trop loin. Nous sommes très contents de vous voir. Et ce soir, donc, on va accueillir Nicole Villemer. Alors, Nicole Villemer, c'est une vieille amie parce qu'on a fait une partie de nos études ensemble et en particulier les études d'astrophysique. Donc, je ne vous dirai pas depuis combien d'années parce que c'est terrifiant. Nicole est directrice de recherche CNRS au LESIA, à l'Observatoire de Meudon. Enfin, Paris-Meudon-Nancy, mais elle est à Meudon. Elle est spécialiste en physique solaire et en particulier elle s'intéresse aux observations d'éruptions en rayons X et en radio. Elle est impliquée depuis une vingtaine d'années dans le satellite Solar Orbiter dont elle va nous présenter des résultats aujourd'hui. Et elle a été donc associée à l'instrument qui observe en rayons X, l'instrument de Solar Orbiter. Nicole collabore avec beaucoup de monde, en particulier avec la NASA pour des expériences en rayons X et puis maintenant avec un certain nombre de laboratoires européens qui sont associés à Solar Orbiter, en particulier la Suisse, le Royaume-Uni et bien d'autres. Donc elle va nous présenter les résultats récents de Solar Orbiter. Il y a encore des places pour ceux qui arrivent, donc n'hésitez pas. Il y a des places même devant, si vous voulez, au deuxième rang. Là, je vois des places même au premier rang. Vous verrez peut-être mieux que si vous êtes trop sur le côté, donc n'hésitez pas à vous installer. Donc merci Nicole, et puis vous pourrez poser des questions à la fin de la conférence.
Vous m'entendez là? Oui, c'est bon? Bon, merci Florence. Donc bonsoir à tous et merci d'être là pour cette conférence. Je suis très contente donc d'ouvrir le cycle de conférences de l'IAP et de pouvoir parler donc de cette mission Solar Orbiter donc sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et qui commence à nous fournir des observations absolument extraordinaires. Ce n'est que le début de la mission. Et on peut imaginer que dans 10 ans, quand ce sera la fin de la mission, et peut-être au-delà, si elle se poursuit au-delà, on aura appris des choses absolument nouvelles sur le Soleil. Ça peut paraître étonnant parce qu'on a l'impression que le Soleil, c'est un objet qu'on connaît très bien depuis très longtemps. Mais comme je vais essayer de vous le montrer, on a encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir sur le fonctionnement de notre étoile. Donc vous avez ici, pour vous mettre en appétit, une première image de l'atmosphère du Soleil, obtenue donc par un instrument en extrême ultraviolet qui voit l'atmosphère chaude du Soleil. Et c'est une des premières images qui a été prise du Soleil, aussi près du Soleil, puisque c'est lors du premier passage de Solar Orbiter à moins de un tiers de la distance Soleil-Terre, premier passage qui a eu lieu en mars. Donc, on voit ici tout un... Ici, vous avez le bord du Soleil, ici, et vous voyez toutes ces structures qu'on verra dans les films ultérieurement, qui n'arrêtent pas de bouger, de s'allumer, de s'éteindre. Et on voit ici que l'atmosphère du Soleil est extrêmement structurée, c'est ce qu'on va essayer d'étudier. Alors, donc... Pendant cette conférence, je vais vous parler donc de Solar Orbiter. Je vais vous présenter les objectifs scientifiques de cette mission et quelques premières observations. Alors, Solar Orbiter, c'est la première mission du programme dit Cosmic Vision de l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est un programme qui court de 2015 à 2025. Cette mission a été construite en collaboration entre l'Agence spatiale européenne et la NASA. Et bien que, comme Florence l'a dit, ça fait 20 ans qu'on a travaillé sur la préparation de cette mission. En fait, elle a été lancée seulement en février 2020 de Cap Canaveral. Donc, en fait, là, on est vraiment au début des observations. C'est une mission qui est un peu particulière pour les physiciens solaires parce que c'est une mission qui comporte des instruments qu'on appelle in situ, qui permettent de mesurer directement les paramètres du milieu proche du Soleil. Et ces observations, ces mesures sont combinées avec des observations astronomiques standards, donc on mesure le rayonnement, qu'il soit en ultraviolet, en lumière visible. Et les buts de cette mission, c'est de comprendre comment le Soleil, qui est notre étoile, crée et contrôle l'héliosphère. Alors l'héliosphère, c'est la bulle de plasma qui est autour du Soleil, qui fait plus d'une centaine de fois la distance Soleil-Terre, et dans laquelle, en fait, les paramètres de milieu sont contrôlés par le Soleil, le vent solaire et l'activité solaire. Donc, comment cette étoile crée et contrôle notre héliosphère? Et les autres sujets d'étude, c'est de comprendre pourquoi l'activité solaire, donc je vais beaucoup vous parler d'activité solaire, pourquoi, comment elle est créée et comment elle varie avec le temps. Alors, avant de rentrer dans les détails de Solar Orbiter et des premières observations qui sont quand même assez spécialisées, et puis comme vous le verrez, on n'a pas encore beaucoup d'observations et surtout on n'a pas encore complètement tiré tout ce qu'on peut faire avec ces observations parce qu'elles sont très récentes, je vais commencer d'abord par vous expliquer un petit peu pourquoi on observe le Soleil, qu'est-ce que ça veut dire que le Soleil est une étoile, l'activité du Soleil. Donc, pour commencer, donc le Soleil, c'est notre étoile. Bon, c'est l'étoile qui nous permet d'être là sur Terre. Bon, c'est une étoile comme une autre. Elle est relativement banale. C'est une étoile de type M. Et comme toutes les étoiles, en fait, c'est une boule de gaz. Et à l'intérieur de cette boule de gaz, dans le noyau qui est très chaud, de l'ordre de 15 millions de degrés et très dense, eh bien, au cœur de l'étoile, vous avez les réactions de fusion nucléaire d'hydrogène en hélium, et c'est ça qui va fournir l'énergie qui ensuite va être rayonnée par l'étoile au niveau de la surface du Soleil. Alors l'énergie qui est libérée, donc, alors j'ai perdu ma souris, non, voilà. L'énergie qui est libérée dans le noyau, ensuite elle est transportée, comme dans un certain nombre d'étoiles, de l'intérieur vers la surface, qu'on appelle la photosphère. Et il y a plusieurs types de façons de transporter cette énergie. Tout d'abord par le rayonnement dans la zone radiative, où il y a donc absorption et réémission de rayonnement. Puis, quand on arrive proche de la surface, où le milieu est moins dense et moins chaud, pardon, eh bien, la chaleur, l'énergie est transportée par des mécanismes de convection, comme quand on fait chauffer de l'eau dans une casserole. Et alors, ce que vous voyez ici, donc ici, en bas, sont des observations, des images de la surface du Soleil, prises évidemment avec un télescope, hein, donc de la photosphère. Et vous voyez des petites cellules qui font à peu près 1500 km, avec des régions qui sont brillantes et d'autres froides autour. Et ça montre, ce sont les traces en fait, des cellules de convection qui apportent la chaleur, l'énergie à la surface du Soleil. Alors, moi, je vais essentiellement ici m'intéresser à l'activité du Soleil. Et l'activité du Soleil, en fait, c'est lié au fait que le Soleil a un champ magnétique. Et toute l'activité est liée au magnétisme du Soleil. Alors, quelles sont les signatures des champs magnétiques à la surface du Soleil? Bien, tout d'abord, à la surface, c'est l'observation de régions qui sont sombres, donc les taches solaires que vous voyez ici. Donc, ici sont un petit détail de l'atmosphère du Soleil. Hein. Donc, les taches solaires qu'on observe depuis le début du XVIIe siècle, depuis que Galilée a inventé la lunette. Donc, ces taches solaires sont des régions où il y a des concentrations de champs magnétiques. Donc, c'est là qu'est l'origine de l'activité du magnétisme de notre étoile. Et c'est essentiellement les sujets qu'on va traiter avec Solar Orbiter. Au-delà de cette surface de l'étoile, qui a une température moyenne de 5700 Kelvin, vous avez l'atmosphère du Soleil, la couronne solaire, qu'on peut observer à l'œil nu lors des éclipses totales de Soleil. Alors ici, vous avez une superbe image d'une éclipse totale de soleil, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on voit à l'œil nu. C'est des très beaux clichés qui sont faits par mes collègues de l'Institut d'astrophysique, ici présents, et qui utilisent des filtres spéciaux pour augmenter le contraste loin du soleil, ce qui permet de voir les structures de la couronne solaire loin. Alors quand vous avez donc ce type d'observation, vous voyez que dans l'atmosphère du soleil, on a ces jets, des rayons, comme les rayons que dessinent les enfants, hein, qui sont des jets coronaux. Et en fait, ici, ce que l'on voit, c'est la lumière diffusée par la poussière et par le plasma de l'atmosphère solaire, la lumière de la photosphère. Ce n'est pas un rayonnement qui est émis par l'atmosphère du soleil lui-même. On sait depuis les années 1930, par des observations donc, lors d'éclipses d'émissions dans la couronne de raies qui ensuite ont été identifiés comme des raies du fer extrêmement ionisées, que la couronne est un milieu très chaud, de l'ordre de 1 million de degrés. Et donc, c'est dans cette couronne qu'on va avoir beaucoup d'activités liées au champ magnétique. Alors, ici, donc, le Soleil, et donc ce qu'on va surtout étudier avec Solar Orbiter, c'est l'activité du Soleil liée à l'existence d'un champ magnétique. Donc, comme vous le voyez sur l'image de gauche, bon, c'est à nouveau une autre vue d'une tache solaire. Et les régions où vous avez des taches solaires sont des régions dans lesquelles on a des concentrations de champs magnétiques. Alors ici, vous avez un petit film que je vais essayer de repasser, qui vous montre, donc ce sont des observations d'un autre satellite que Solar Orbiter. On verra tout à l'heure quelques premières observations de champs magnétiques à la surface du Soleil avec Solar Orbiter, mais on n'en a pas encore beaucoup. Donc, vous avez ici donc, des observations précédentes qui vous montrent, donc, vous avez tout le Soleil. Ici, vous voyez que vous avez des régions avec des concentrations de points noirs et blancs qui montrent, en fait, des champs magnétiques, des pôles, on va dire des pôles nord et des pôles sud, des champs magnétiques à la surface du Soleil. Donc là où vous avez des régions actives, vous avez ces fortes concentrations de champs. Vous voyez qu'ailleurs, si on regardait des observations de la photosphère, cet endroit-là, on verrait des taches. Ailleurs, il y a des petits points gris, noirs et blancs qui montrent qu'il y a un petit peu de champ magnétique partout dans l'atmosphère du Soleil, mais c'est vrai que c'est surtout concentré dans les régions actives. Alors, on verra cependant, avec les observations de Solar Orbiter qu'on a eues jusqu'à présent, qu'on voit beaucoup mieux avec Solar Orbiter, justement, ces petites concentrations de champs magnétiques qui existent en dehors des grosses régions actives. Alors, sur les régions actives, je voudrais juste dire que, je ne vais pas trop en parler ici, mais il y a un cycle d'activité du Soleil, c'est-à-dire que si on regarde le nombre de taches à la surface du Soleil en fonction du temps, on voit que ça varie avec une période d'à peu près 11 ans, quand on ne regarde que le nombre de taches, et 22 ans si on regarde la polarité des régions actives. Ce cycle d'activité solaire... Donc, quand on a lancé Solar Orbiter, et on verra les observations, les premières observations, quand on a lancé Solar Orbiter, on était en fait au moment du minimum d'activité solaire. Donc, les premières observations qu'on a faites, il n'y a pas beaucoup de régions actives, et il y a surtout un soleil qu'on appelle calme, c'est-à-dire, et en fait, il n'est pas vraiment calme, mais un soleil où il n'y a pas de grosses éruptions. Champ magnétique à la surface du Soleil. Dans la couronne, ce champ magnétique, on ne peut pas le mesurer. C'est assez difficile, mais on le trace en fait par le plasma chaud qui est observé en extrême ultraviolet et qui, ce plasma chaud, donc c'est du matière ionisée, suit les lignes de champ magnétique, tout comme la limagne de fer suit les lignes de champ magnétique des aimants. Donc c'est comme ça qu'on peut visualiser les champs magnétiques dans l'atmosphère du Soleil. Alors quelquefois on a un peu des abus de langage, parce que quand on parle, on va dire ben là je vois des boucles de champs magnétiques, mais en fait c'est surtout on voit la boucle tracée par la matière et qu'on interprète comme étant la boucle de champs magnétiques. Donc le Soleil et son atmosphère la couronne. Donc c'est ce qu'on va surtout observer, c'est un des sujets qu'on va traiter avec Solar Orbiter. C'est donc un plasma chaud, plus d'un million de Kelvin, plus chaud que la surface, 5700 degrés. Et ça, c'est un problème, qu'on doit essayer de comprendre. C'est pourquoi l'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface. Et ça, c'est un problème qu'on appelle dans notre jargon le problème du chauffage de la couronne. Il y a d'autres étoiles qui ont aussi des atmosphères plus chaudes que leur surface. Et donc, comprendre pourquoi l'atmosphère d'une étoile est plus chaude que sa surface, c'est un sujet qui peut s'étendre à la physique, à des études de physique stellaire en général. Alors, pour comprendre ceci, il faut trouver des moyens d'apporter de l'énergie supplémentaire dans ce milieu, qui est un milieu dilué. Et donc, il y a plusieurs hypothèses, et je reviendrai tout à l'heure sur l'apport des premières observations de Solar Orbiter sur ce sujet. Donc, cette couronne est très bien observée en rayon UV. C'est ce que vous voyez, le petit film que vous voyez sur la gauche. On l'observe aussi en rayon X, et là, c'était observé par un satellite japonais qui s'appelait Yoko. Et là, vous avez des images de la couronne sur 11 ans. Au milieu, 2001, c'était maximum d'activité solaire. Ce que vous voyez, c'est qu'à ce moment-là, la couronne est extrêmement brillante, telle qu'elle est observée par ce satellite, avec des régions qui sont plus brillantes que d'autres et qui, là encore, correspondent aux régions actives. Donc, en dessous, vous avez des taches avec du champ magnétique. Au moment du minimum d'activité, donc 1996 et le suivant 2006, la couronne est beaucoup plus noire, elle est moins chaude, elle est moins brillante. Et vous voyez cependant qu'il y a encore des petits points qui sont brillants, qu'on appelle des points brillants. Donc ça montre aussi la variabilité de la couronne avec le cycle d'activité solaire. Je voudrais aussi pointer cette région ici, ces régions qui sont noires, qui sont moins brillantes, qu'on appelle des trous coronaux. Alors, pourquoi des trous coronaux? Parce qu'a priori, ce sont des régions où la densité du milieu est moindre et qui sont des régions avec des lignes de champ magnétiques ouvertes vers le milieu interplanétaire. Il y en a aussi à l'équateur du Soleil, quelquefois, comme on peut le voir ici. Et c'est avec ces régions qu'on pense que par un des régimes de vent solaire dont je vais parler tout à l'heure, du vent solaire, le vent solaire rapide. Alors, donc, la couronne solaire, toujours, on l'a beaucoup observée en extrême ultraviolet depuis un certain nombre d'années, depuis 1995, par exemple, elle a été observée de façon continue à l'aide d'un instrument qui était à bord de la précédente mission de l'ESA de physique solaire, qui s'appelait SOHO, qui s'appelle toujours SOHO, qui a été lancé en 1995. Donc ça vous donne un petit peu l'écart entre les différentes missions, 15 ans pour changer de mission sur une thématique à l'Agence spatiale européenne. Dans les années 2010, il y a eu un satellite américain qui a aussi observé la couronne en rayonnement extrême ultraviolet, pardon. Et là, vous avez un petit filtre qui vous montre, ça nous a donné une nouvelle vue de l'activité du Soleil. Donc là, vous voyez, en fait, ce film, c'est un composite de trois images, de trois fausses images, c'est des fausses couleurs, puisque tout ça, c'est de l'UV, dans différents traits qui tracent le plasma à différentes températures. Alors, vous voyez ici que c'est un morceau du Soleil. On a une région qui est bien, bien sombre ici, qui est comme un trou coronal. Et puis, on a des régions actives. Et si je remets le film, ben vous verrez qu'on voit qu'avec le temps, il y a des régions qui viennent plus brillantes que d'autres. Donc ça, c'est lié au phénomène d'éruption. Et puis, il y a aussi, à certains moments, des éjections de matière vers la haute couronne, qui ensuite peuvent se propager plus loin dans le milieu interplanétaire. Donc toute l'origine de tous ces phénomènes éruptifs que l'on voit dans l'atmosphère solaire, ça, l'origine, c'est le champ magnétique et les forces magnétiques qui vont s'exercer sur le plasma. Alors pour vous mettre un petit peu en appétit sur Solar Orbiter, donc vous avez vu l'évolution entre SOHO, SDO, et voilà aujourd'hui une première image du Soleil vu à 0,3 unité astronomique avec un instrument UV, toujours le même type d'observation. Et c'est une des premières images qu'on a eues à cette distance et qu'on a obtenue fin mars 2022. Donc, il n'y a pas encore de papier scientifique qui a été fait là-dessus parce qu'il faut déjà traiter les données. Ici, c'est un film qui a été fait par un de mes collègues et qui a utilisé une technique spéciale pour mettre bien en évidence toutes les structures. Alors, vous voyez que dans cette petite région du Soleil, on voit donc de nombreux astres coronales. Il y en a un petit peu partout, puisque vous voyez, c'est que ça bouge tout le temps. Donc, il y a de la matière qui circule dans les boucles, qui monte, qui descend. Il y aura beaucoup de travail à faire pour interpréter ces observations et comprendre finalement quelle est la physique à l'origine de tous ces mouvements. Donc, je vous ai parlé jusqu'à présent de la couronne solaire, qui est donc un des sujets d'études Solar Orbiter. Je vous ai dit j'ai prononcé le nom de vent solaire. Donc, je voudrais ici dire quelques mots sur ce qu'est le vent solaire. Donc, le Soleil, en fait, la couronne, l'atmosphère du Soleil, c'est un milieu très chaud qui n'est pas maintenu gravitationnellement, en fait, par l'étoile elle-même et qui a tendance à s'échapper. Cependant, ce n'est pas vraiment une simple brise qu'on observe, c'est un vent, parce qu'on sait qu'il y a un déséquilibre de pression entre la pression de l'atmosphère solaire et la pression du milieu interstellaire. En fait, ça fait comme un phénomène de tuyère, et quelque part, le vent est accéléré. Et ça a été prédit par un monsieur qui s'appelle Parker, Eugène Parker, qui est mort l'année dernière, mais qui a néanmoins vu en 2018 le lancement de la sonde solaire, c'est la mission de la NASA qui avec laquelle on travaille et qui est une autre mission qui s'est approchée très proche du Soleil, et il a eu la chance de voir le lancement de sa sonde, de la sonde qui va se rapprocher du Soleil et étudier donc le démarrage du vent solaire. Alors ce vent solaire, typiquement, c'est un flux d'hydrogène ionisé, des électrons et des protons, qui se promènent avec des vitesses de l'ordre de 200 à 800 km par seconde et qui arrivent avec ce type de vitesse au niveau de l'orbite terrestre. Donc, ce sont des vitesses supersoniques par rapport au milieu et une densité de l'ordre de 10 électrons par centimètre cube. On observe ici, ça c'est un coronographe, ce sont des observations d'un coronographe, donc ce sont des instruments qu'on a à peu près partout maintenant dans les observatoires au sol, mais aussi à bord de satellites pour observer l'atmosphère du Soleil. Ici, le petit rond blanc, ce serait le disque optique, donc ce qu'on voit à l'œil nu. Ça, c'est la partie qui occulte le Soleil et son environnement proche. Et ici, vous voyez donc les structures de la couronne qu'on observe, que je vous ai montrées lors des éclipses, mais que l'on voit ici beaucoup plus loin. Et si je mets ce film en marche, donc là, ce sont des observations de SOHO, donc qui a été lancé en 1995 et qui continue à fonctionner. Donc, vous verrez, vous aurez l'impression de voir. Alors, on voit. Ce qui frappe d'abord, c'est le mouvement d'une planète dans le champ du coronographe. Et puis, vous voyez donc les étoiles qui bougent dans le champ. Et puis, vous voyez donc de la matière qui semble s'échapper du Soleil. En plus donc, de ce vent solaire qui part naturellement de la couronne du Soleil, on a, lorsqu'on a de l'activité, on a des phénomènes d'éjection coronale de masse. Donc, ce sont les bulles que vous avez vues précédemment et qui partent du Soleil. Donc, ce sont des bulles de matière ionisée qui s'échappent de l'atmosphère du Soleil, qui peuvent se propager jusqu'à l'orbite terrestre. Vous avez ici quelques indications sur la vitesse de ces éjections de masse coronale et sur leur masse. Et ce que vous allez voir aussi, je pense, vous avez vu à un moment qu'il y avait une espèce de neige dans l'image de l'instrument. Ça, c'est quand les particules énergétiques, les protons, qui sont aussi produits lors des éruptions solaires par le Soleil, lorsque ces protons arrivent sur les caméra CCD, ça fait de la neige. Donc le soleil nous fait, lorsqu'il y a des activités, donc produit des éruptions, des éjections de masse coronale et aussi des particules énergétiques. Alors voilà ici, donc ça c'est un, pour vous montrer toujours des observations précédentes. Donc là c'est à nouveau, c'est un autre satellite qui s'appelle Stereo, qui a permis d'observer pour la première fois la propagation de ces nuages loin du soleil. Le petit cercle orange au milieu, c'est le soleil. Et ensuite, vous avez des observations en orange, c'est un premier champ d'un coronographe. Et ensuite, en bleu, c'est ce qu'on appelle un imageur héliosphérique, donc imageur de l'héliosphère. Et c'est le type d'instrument que nous avons aussi à bord de Solar Orbiter. Et je vous montrerai quelques premières observations de cet imageur orbiteur, de cet imageur héliosphérique. Alors ici, vous voyez la propagation des éjections de masse coronale. Ici, je crois que c'est la Terre. Parce qu'on voit, en fait, sur le côté, et donc on voit ces perturbations aussi lorsqu'elles arrivent sur nous. Donc, je vais maintenant... j'espère que je vous ai montré que c'était intéressant d'étudier l'activité du Soleil. Les questions, on a encore beaucoup de questions sur, par exemple, l'émergence du champ magnétique qui est à la surface du Soleil, comment on explique le cycle solaire. On sait que c'est une dynamo, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour comprendre les détails. On a aussi encore beaucoup de questions sur les mécanismes qui sont impliqués dans la formation de la couronne solaire chaude, du vent solaire, et quels sont les processus physiques qui expliquent l'activité éruptive du Soleil. On a les grandes lignes, mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup de questions. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de chance dans notre communauté, parce que pour travailler sur ces sujets, non seulement on a des observatoires au sol, et là, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais on a surtout deux nouvelles missions qui viennent d'être lancées et qui sont des missions qui vont s'approcher du Soleil. Donc, il y a la mission Parker Solar Probe de la NASA qui a été lancée en août 2018, que j'ai mentionnée tout à l'heure, mais dont je ne vous parlerai pas trop. Et puis, Solar Orbiter, donc notre mission ESA-NASA qui a été lancée récemment. Alors, donc, je vais passer maintenant à une présentation un peu plus détaillée de Solar Orbiter. Alors, le concept de mission est assez unique. Donc, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une combinaison. À bord, on a 10 instruments. On a des instruments qui font des mesures in situ, ce qu'on appelle in situ, des mesures locales, donc des paramètres de l'atmosphère du Soleil, là où est la sonde. Des mesures de la densité, de la température, du champ magnétique dans l'atmosphère du Soleil. Et on a des mesures de télédétection. Le Solar Orbiter fait des observations proches du Soleil. L'approche minimale sera de 0,28 unités astronomiques. Là, on est déjà à 0,3 unités astronomiques. Et en plus, pendant la phase finale de la mission, le plan d'inclinaison de l'orbite va sortir du plan de l'écliptique, c'est-à-dire des plans des planètes, pour pouvoir voir le Soleil par les pôles. Il n'y a pas eu beaucoup de missions jusqu'à ce jour qui ont mesuré le Soleil par les pôles. Il y a eu ULIS, c'était une mission de l'ESA aussi dans les années 90, mais elle était beaucoup plus loin, il n'y avait pas d'instrument d'imagerie à bord de ULIS. Donc là, avec cette mission, on devrait pouvoir voir pour la première fois les pôles du Soleil très proches. Et ça, c'est très important de voir les pôles pour, par exemple, contraindre les mécanismes de génération du champ magnétique. Mais bon, je n'aurai probablement pas le temps de vous expliquer tout ça. Donc voici ici un film qui vous montre l'orbite de Solar Orbiter. Au milieu, vous avez le Soleil. Le trait blanc, c'est l'orbite de la sonde. Vous avez le temps qui s'écoule à droite. En bleu, c'est la Terre. L'orbite bleue, c'est la Terre. Puis vous avez Vénus et puis vous avez Mercure. Alors, pour se rapprocher du Soleil, en fait, ce n'est pas si simple que ça. Et en fait, pour se rapprocher du Soleil, il faut perdre de la vitesse de rotation de la Terre. Et ça, on le fait par des assistances gravitationnelles avec des planètes. Donc là, par exemple, je vais m'arrêter, si je peux. Il est reparti. Donc là, au début de la mission, on a eu tout d'abord une assistance gravitationnelle avec Vénus en décembre 2020, ce qui a permis de changer un petit peu l'orbite. Puis, il y en a eu une deuxième en août 2021. Ensuite, en novembre 2021, ce leur orbiteur est revenu près de la Terre, il est passé très bas dans l'atmosphère de la Terre. Et c'est à partir de ce moment-là que la vraie phase nominale de la mission a commencé. Maintenant, l'orbite sera comprise plus ou moins entre 0,3 unités astronomiques au périgée et 0,9 à l'apogée. Et donc, vous voyez qu'à la fin de la mission, eh bien, on sortira du plan de l'écliptique. Fin de la mission qui est prévue en 2029, mais peut-être qu'on espère que ça durera plus longtemps, puisque SO, qui a été lancé en 1995, fonctionne encore. Enfin, il y a encore des instruments qui fonctionnent. Alors, pour les physiciens solaires standards, c'est une mission d'un nouveau type, en fait, parce qu'on a toujours eu l'habitude d'avoir beaucoup d'observations, et d'avoir les observations en temps réel, plus ou moins. Par exemple, je vous ai montré des images de Solar Dynamics Observatory de la NASA, les films que je vous ai montrés. On a beaucoup d'informations, beaucoup d'images, et presque tout de suite. En fait, Solar Orbiter, c'est plutôt une mission de type planéto, avec, vous direz, de type rencontre avec le Soleil, parce que tous les instruments ne fonctionnent pas en permanence. Il n'y a que les instruments in situ, et l'instrument de mesure de rayon X sur lequel je travaille, qui vont fonctionner en permanence sur toute l'orbite. Pour les instruments de télédétection, en fait, il y a seulement des observations pendant des créneaux très courts, c'est 3 fois 10 jours au cours de chaque orbite, donc au périhélie, et quand on s'approche du périhélie et que la sonde est un petit peu à plus haute altitude. Donc ça, c'est une autre façon de fonctionner. Il faut voir aussi que, par exemple, là, en ce moment, Solar Orbiter est de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre, à peu près la même distance, 2 unités astronomiques. Donc pour récupérer les données, il y a un petit peu de temps de latence. Donc on n'a pas, c'est pas du tout un fonctionnement auquel on était habitué. Donc il y a tout un processus d'organisation des observations quand on va avoir des périhélies. Alors voilà ici le satellite avec les différents instruments. Je vais pointer, il y a des antennes qui sont très importantes parce que c'est là-dessus qu'on a mis des instruments. Il y a un certain nombre d'instruments qui sont placés sur ces antennes. Donc il y avait effectivement tout un problème de technologie pour déployer les antennes. Et voilà ici donc la liste des instruments qui font des mesures in situ. Donc, c'est une mission européenne. Hein. Donc, en fait, là, vous avez les drapeaux des pays qui portent la responsabilité de chacune des expériences. Mais en fait, dans chaque expérience, il y a des contributions de nombreux laboratoires européens, voire américains. Donc, je vais vous parler en particulier donc, de l'expérience RPW, Radio Plasma Wave. Vous voyez qu'il y a un petit drapeau français. Et en fait, c'est une des expériences. C'est l'expérience pour laquelle le LESIA a eu beaucoup de responsabilités. Donc, on a construit des détecteurs, etc. Voilà ici donc, la liste des instruments de télédétection. Donc là aussi, des contributions des divers pays. Donc, je vous ai déjà montré des images de l'imageur EUV donc, qui a été construit sous la responsabilité belge, mais en fait, il y a aussi une forte contribution française. Cet instrument qui mesure le champ magnétique, je vous montrerai des observations plus tard. Et puis, donc, moi, comme je l'ai dit, j'ai pas mal travaillé avec cet instrument suisse sur les observations en X. Et je vous montrerai également des images de l'imageur héliosphérique, qui est américain, lui, comme vous le voyez. Alors, après le lancement, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien, on a mis en marche, au fur et à mesure, tous les instruments. Moi, ça s'est passé pendant le Covid. Donc, toute la phase de ce qu'on appelle de recette en vol, de démarrage des instruments, ça s'est fait à distance par des téléconfs. Je crois que personne n'avait jamais fait ça. C'était un moment assez extraordinaire. Donc, tous les instruments ont été allumés les uns après les autres, ont fait leurs premiers tests. Et en juillet 2020, il y a eu un premier communiqué de presse de l'ESA pour montrer que tous les instruments fonctionnaient tous. Et donc, là, vous avez des premières observations des 10 instruments. Bon, je ne vais pas passer trop de temps sur ces premières observations parce que maintenant, nous avons mieux. Alors, Et je vais vous parler pas mal des observations en UV, parce que c'est quand même la première fois qu'on va pouvoir voir des détails de l'atmosphère solaire aussi fins avec des... Et donc, c'est quand même des moments absolument extraordinaires pour nous. Alors ici, vous avez quelques premières observations scientifiques, donc qui datent de mai 2020, et probablement aussi mars de cette année, mais c'était pas encore dans, on n'était pas encore dans le mode de fonctionnement standard. Donc vous voyez ici au milieu, donc, c'est ce qu'on a, j'ai appelé la face cachée du Soleil, parce que là, c'était un moment où Solar Orbiter voyait le Soleil de l'autre côté par rapport à la Terre. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand on avait lancé Solar Orbiter, eh bien, on était presque au minimum d'activité, mais vous voyez que malgré tout, il y a quand même des petites régions actives avec des petites éruptions et donc de l'activité. Une des découvertes, entre guillemets, des premières observations, ça a été la découverte de phénomènes que les gens ont appelés campfires, les feux de camp. Donc c'est assez médiatique ça. Je pense que c'est probablement la limite, enfin un phénomène de plus faible énergie que ce qu'on observait précédemment, mais la notion de campfire, ça a beaucoup plu. Donc ce que je vais vous montrer, c'est ici vous avez un petit détail de l'atmosphère solaire, là dont vous êtes dans un trou. Vous voyez, il y a un petit point ici, et si vous regardez bien, on le voit devenir brillant sur des périodes de l'ordre de 10 secondes. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on était à la recherche de petits phénomènes d'activité dans des régions standards de l'atmosphère du Soleil pour voir si le chauffage de la couronne, le fait que la couronne était chaude, c'était pas lié finalement à une multitude de petits événements magnétiques dans l'atmosphère du Soleil. Ici, vous avez donc le vue du pôle sud à haute résolution et ici des observations du pôle sur lesquelles je vais revenir. Alors, ces fameux feux de camp, je vais en parler un petit peu plus. Donc ça, ce sont des observations qui ont été faites en mai 2020, donc la première année. Alors, ce n'était pas encore des observations dans la phase nominale de la mission, c'était encore lorsqu'on testait les instruments. Mais ce que vous voyez ici, donc, c'est donc une toute petite région de l'atmosphère du Soleil. Donc vous voyez qu'il y a des régions sombres, brillantes. Cette région ici, c'est à peu près, voilà, vous voyez la taille de la Terre ici, donc c'est à peu près la taille de la Terre. Et puis ici, on a un zoom de ce petit point. Et quand on fait ce zoom, ben, vous voyez que ça devient brillant. Et puis on a même de la matière qui est éjectée à petite échelle, à la fois spatiale et temporelle. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ces feux de camp, c'est quelque chose qui peut contribuer au chauffage de la couronne? Et est-ce que c'est la même chose que des petites éruptions, mais à beaucoup plus petite échelle? Et là, maintenant, on peut les observer parce qu'on est beaucoup plus près du Soleil. Donc, c'est voilà ici un des premiers résultats scientifiques sur ces feux de camp. Donc, ces résultats ont été obtenus sur les observations ici qui duraient à peu près 4 minutes. Et pendant ces 4 minutes, on a observé, les auteurs de ce papier ont observé plus de 1500 événements. Ils ont regardé comment ces événements se répartissaient en termes de durée des événements. Donc vous avez ici la répartition des événements en fonction de leur durée, le nombre d'événements en fonction de la durée. Les durées, c'est de l'ordre de 10 à 200 secondes. Et puis, vous avez aussi la taille de ces événements en millions de mètres carrés. Et ici, vous avez en bas la distribution de ces événements en fonction de leur intensité totale. Alors, c'est très intéressant, mais pour pouvoir aller plus loin, il faudrait maintenant savoir quelle est vraiment l'énergie qui est libérée, qui est rayonnée par ces événements, et pour pouvoir comparer, faire un bilan énergétique et savoir si ce nombre d'événements peut vraiment, si ce type d'événement peut vraiment contribuer au chauffage de la couronne. Donc là, c'est évidemment, on est au début de mission, donc ce sont des travaux qui vont se poursuivre. Ce qui a été aussi fait, c'est de regarder, donc pour ces régions où on voyait des feux de camp, est-ce qu'on voyait des champs magnétiques et des concentrations de champs magnétiques. Alors ici, vous avez donc une observation d'une région où on voyait, où on voyait des feux de camp avec donc cet instrument qui voit la couronne en musée. Et ici, vous avez des mesures, donc ce sont les premières mesures du champ magnétique à la surface du Soleil, vu par l'instrument Phi. Alors, ce que vous voyez là, c'est qu'en fait, comme je vous l'ai dit au début, le Soleil, ce n'était pas un Soleil très actif. Et ce que l'on voit ici, c'est le champ magnétique dans les régions où il n'y avait pas de concentration, très peu de concentration de champ sur le film que je vous ai montré au début. Et vous voyez que malgré tout, dans ces régions, on voit qu'il y a aussi des polarités positives, négatives. Il y a partout des petites concentrations de champs magnétiques. Donc ça, c'est quand même c'est les premières observations, donc on ne peut pas encore trop en dire, mais je pense qu'on va certainement découvrir des choses intéressantes sur le magnétisme du Soleil en dehors des régions actives. Et puis ici, si vous regardez ces résultats qui ont été publiés récemment, vous avez donc la première comparaison donc détaillée des observations donc en UV de ces petits embrayancements, des campfires. Et là, c'est le même champ du Soleil. Et on voit ici les observations de champs magnétiques. Et ce que vous voyez, donc le cercle ici montre la région où il y a l'embrayancement. Cette région est au milieu donc, de régions où vous avez différentes polarités magnétiques. Et donc, ça peut être interprété comme ces régions-là, comme des pieds de boucles magnétiques en interaction, parce qu'on a plusieurs bleus, plusieurs blancs, plusieurs bleus, plusieurs blancs. Et ça conforte un petit peu un schéma que j'ai mis à droite, qui vient d'un autre papier, qui a été publié en 2021 et qui a essayé d'interpréter ces fameux campfires et de montrer que cette émission provient d'un plasma qui est chauffé dans la couronne et qui est chauffé lors de l'interaction de boucles magnétiques. Et donc, on a ici les traces de ces boucles magnétiques. Alors, évidemment, on n'en est qu'au début, mais on voit qu'il y a des choses potentiellement intéressantes à faire sur le sujet du chauffage de la couronne avec les nouvelles observations de leur orbiteur. Maintenant, la question, est-ce qu'il faudra savoir si l'énergie libérée est suffisante pour maintenir la température de la couronne? Alors, voilà ici, donc, je vous avais parlé des observations du pôle à haute résolution. Donc, voilà, ça, c'est la vue du pôle sud. Et là, on est dans un trou coronal en bas. Mais vous voyez que dans ces régions, on voit aussi des très petites structures qui deviennent brillantes, avec des formes qu'on peut interpréter comme étant des arches, puis des jets. Et donc, lorsqu'on voit ça, on peut se demander si ces petits événements de libération d'énergie magnétique, ça peut aussi contribuer à l'accélération du vent solaire. Ça aussi, c'est des questions qui sont ouvertes. Et là, c'est des observations de Mars, mais elles ne sont pas encore complètement étudiées. Alors, lors de ce premier passage proche du Soleil, nous avons aussi réussi à faire une observation alors que le Soleil n'est pas très actif. On a réussi à combiner des observations de différents instruments en UV, parce que je vous en ai beaucoup montré, mais aussi en rayon X, pour regarder comment se passe en détail une éruption lorsqu'on la voit de près. Alors là encore, ce sont des observations qui sont très récentes. Je ne suis même pas sûre qu'on ait encore reçu toutes les informations scientifiques. Et puis, avant qu'il y ait des papiers publiés là-dessus, il va se passer quand même un petit peu de temps, parce qu'il faut comprendre ce que l'on observe. Alors, pour expliquer un petit peu ce qu'on observe, je vous ai mis ici un schéma d'une éruption de ce qu'on observe avant le lancement de Solar Orbiter avec d'autres instruments. Donc, quand on a des événements un peu plus importants, type éruption, eh bien ici, on a des boucles coronales, toujours qui sont chauffées et que l'on voit en UV. Et dans ces boucles coronales, on peut voir des émissions X qui sont produites soit par du plasma très chaud, soit par des électrons énergétiques avec des énergies de l'ordre de plusieurs dizaines de kiloélectronvolts. Donc, c'est des électrons qui seraient accélérés dans des potentiels électriques de 10 kilovolts. Voilà. Et ces électrons interagissent avec l'atmosphère du Soleil et la surface du Soleil, font du rayonnement de freinage, et ça nous donne des émissions X qu'on peut observer avec des instruments. Donc là, c'est à peu près ce que l'on observait quand on... C'est ce qu'on observe ici quand on voit une éruption sur le bord du Soleil. Ici, il faut se dire qu'on voit toutes les émissions en projection sur le disque parce que la région active est au centre. Et donc là, vous voyez donc cette petite région active qui a donné une éruption pendant donc ce premier ce passage. Et vous voyez ici l'évolution des émissions X, donc la formation d'arches. On a ici ce qu'on appelle des rubans d'éruption. Et puis par-dessus, vous avez en couleur la localisation des émissions X qui montre le plasma plus chaud produit dans l'éruption solaire. Et aussi en bleu, c'est l'impact des électrons énergétiques dans à la surface du Soleil. Donc là, bon, il n'y a évidemment pas encore de papier sur ce type d'observation, hein, parce que c'est beaucoup trop récent, mais ça montre quand même le potentiel. Alors, pour quasiment terminer sur ce qu'on voulait faire avec Solar Orbiter, sur les propositions de sujets très intéressants qu'on avait fait dans les propositions, il y a pourquoi on a voulu avoir des instruments à la fois de télédétection et des instruments in situ sur Solar Orbiter, c'est pour pouvoir mieux faire le lien entre ce qui se passe à la surface du Soleil, les éruptions, les éjections de masse coronale par exemple, et ce que l'on mesure dans le milieu interplanétaire. Parce qu'auparavant, on pouvait le faire en combinant des observations de divers satellites. Mais quand on combine des observations de divers satellites, ben, on n'a pas forcément les observations au même moment, ça se combine pas forcément très bien. Donc là, à bord de Solar Orbiter, on voulait avoir des observations qui permettaient de faire plus facilement le lien entre l'activité solaire au niveau de sa surface et ce qu'on mesure dans le milieu interplanétaire. Et c'est en particulier donc, le sujet donc, de ces particules énergétiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, dans les éruptions solaires, donc, je viens de vous montrer qu'on a des électrons qui peuvent être accélérés, qui font des émissions X, que l'on détecte avec des instruments X. Ces émissions X sont associées à des éruptions ou à des jets de matière que l'on voit en ultraviolet. Et puis, dans certains cas, on peut détecter directement les électrons lorsqu'ils sont injectés et, le long de lignes de champ magnétique qui partent de l'atmosphère du Soleil et qui vont vers le milieu interplanétaire. Si le satellite est bien connecté, on peut mesurer des électrons énergétiques, c'est ce qui est montré ici, en provenance de l'atmosphère du Soleil. Bon, de plus, pour pouvoir faire le lien entre ces électrons qui sont détectés par la sonde et l'éruption, on peut utiliser les émissions radio parce que ces électrons qui se propagent le long de lignes de champ magnétique vont faire des émissions radio spécifiques que l'on observe ici. Alors, quel est le principe? Voilà ici ces fameuses émissions radio qu'on appelle dans notre jargon des types 3, qui sont associées donc à la propagation de faisceaux d'électrons le long de lignes de champ magnétique. Lorsque les électrons se propagent dans le milieu, ils excitent, enfin, ils perturbent le milieu, ça excite des ondes dans le plasma, des ondes qu'on appelle les ondes de Langmuir, qui sont ensuite converties en ondes électromagnétiques qu'on peut détecter. Et ces ondes tombent en fait dans le domaine radio, donc dans le domaine ici, quand on est ici, vous avez donc des émissions produites par les électrons à 2 MHz qu'on peut détecter avec cet instrument. Puis quand ils s'éloignent, la fréquence de production des émissions diminue parce qu'elle est liée à la fréquence de plasma qui en fait dépend de la racine carrée de la densité dans le milieu et ça décroît avec la distance au Soleil. Et donc, à l'aide de ces observations radio, vous pouvez faire le lien entre ce qui se passe dans l'atmosphère du Soleil et les électrons qu'on détecte en X, et puis les électrons qu'on va mesurer directement avec des instruments in situ. Alors, on a eu, pour vous montrer, on a eu beaucoup de chance, là encore, parce que lors du passage de Solar Orbiter en mars, lors du premier passage proche du Soleil, eh bien, on a eu la chance de détecter une petite éruption solaire ici, dans cette région, mais d'avoir l'instrument X, donc ça c'est le Soleil. On voit ici le petit point rouge, c'est la position des émissions X produites par les électrons énergétiques dans l'atmosphère du Soleil, donc ça vous montre finalement où étaient localisées les régions d'accélération des électrons. On a pu suivre les émissions radio de ces électrons, ici, avec ici même la production de ces fameuses ondes de plasma de Langmuir, et on a pu détecter les particules énergétiques qui sont produites par cette éruption. Donc là, c'était un communiqué de presse aussi suite à ce premier périhélie, qui montrait que là, en combinant tous ces instruments, on pouvait faire le lien, enfin commencer à faire le lien en ce qui concernait donc la génération des particules énergétiques et leur propagation dans la couronne en utilisant tous ces instruments. Mais là encore, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors je vais finir avec quelques observations de l'imageur héliosphérique. Donc ici, vous voyez, Donc vous voyez ici, c'est au début de la mission, novembre. C'est pendant la première phase de croisière de ce orbiteur vers Vénus, avant la première assistante gravitationnelle. Donc en fait, ce orbiteur est parti de la Terre et s'approchait de Vénus. Donc dans le champ de l'imageur héliosphérique, ce n'est pas très intéressant, on ne voit pas trop de phénomènes d'activité solaire ici. On voit essentiellement les étoiles qui bougent, parce que la sonde bouge, et les planètes, Vénus vers lequel on se dirige, Uranus, la Terre et Mars. Alors le but de cet instrument, c'est de voir essentiellement donc, la propagation des éjections de masse coronale loin du Soleil. On n'a pas forcément eu beaucoup d'activité, surtout que c'est un des instruments donc, de télédétection, il n'est pas allumé tout le temps. On peut aussi observer avec ce type d'instrument des comètes. Donc ici, ça, c'est une observation de comète en décembre de l'année dernière, la comète Léonard. Donc je vais mettre le film. Donc vous allez voir voilà, la comète qui arrive dans le champ. Et donc là, vous voyez la queue les deux queues qui se forment à un moment, le Soleil est par là. Et ce que l'on peut faire, là ce sont des images, mais en faisant des différences d'images, c'est-à-dire en prenant une image à un moment donné et en la soustrayant à l'image d'avant, quand on fait ça, ce qui est blanc ou noir, c'est l'endroit où vous avez de la matière qui est arrivée ou qui est partie. Donc vous allez voir qu'en faisant ce film de cette manière, ben non seulement vous voyez la comète là, qui arrive ici, mais vous allez voir également, voilà, ici, cette perturbation, ce front en fait, c'est une éjection coronale de masse qui vient du Soleil et qui est en train d'arriver. Et on va voir l'interaction de cette bulle de matière avec la comète et ça va perturber un petit peu la comète. Alors ça, on l'avait déjà observé avec les coronographes de Soho, mais je pense que là, il va y avoir aussi tout un tas de choses intéressantes à faire avec ce type d'observation. Donc, je vais maintenant finir ma conférence. J'espère que je vous ai convaincu que avec les observations Solar Orbiter, combinées sans doute avec celles de Parker Solar Probe, dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais ces deux missions qui vont se rapprocher du Soleil, on est eu au début d'une phase de découverte d'une autre façon de comprendre l'activité solaire et sûrement au début d'une phase de découverte de nouveaux phénomènes, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle mission, finalement, on découvre des nouveaux phénomènes. Alors, là, on n'est qu'au début, hein, puisqu'on a eu un premier passage seulement dans un périhélie proche du Soleil. D'ici la fin de la mission, en 2029, peut-être qu'elle sera prolongée, ben, je l'espère, pour mes collègues, il y aura 18 passages au périhélie, 4 survols de Vénus, et sûrement des dizaines de milliers d'heures de données à analyser, donc on n'est pas au bout de nos peines, et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, je voulais juste finir en disant que donc travailler sur ce type de mission, c'est extrêmement intéressant, que c'est long, parce que les premières réunions, on a commencé à parler de cette mission, c'était peut-être même un peu avant 2000, mais le temps de convaincre les agences spatiales que c'est intéressant de faire ceci, d'être sélectionné, parce qu'il y a énormément de compétition avec d'autres missions d'astrophysique, Et puis ensuite, la phase de construction des instruments, puis le lancement, eh bien, on est quasiment 20 ans après. Donc là, maintenant, on est au début de l'exploration de l'atmosphère proche du Soleil avec Solar Orbiter. C'est aussi des projets qui impliquent énormément de gens, en fait, hein, parce qu'il y a plein de laboratoires dans les universités européennes, américaines, qui ont contribué au projet. Il y a plein d'ingénieurs aussi à l'ESA, dans l'industrie, pour construire les satellites. Donc, ça implique énormément de monde. Et donc, c'est quand même c'est des expériences qui sont vraiment très, très intéressantes. Et ici, donc, vous voyez une photo qui a été prise à J-2 du lancement à Cap Canaveral en février 2020. Donc là, c'est seulement une partie des chercheurs et ingénieurs qui étaient impliqués dans Solar Orbiter et qui étaient à Cap Canaveral, mais il y avait déjà beaucoup de monde. Comme vous pouvez le constater, on n'avait pas de masque, et c'était probablement le 18 février 2020. Et ici, donc, je vais finir avec une très belle photo du lancement de Solar Orbiter, qui était un moment extrêmement émouvant pour moi. Voilà, je vous remercie.
Eh bien, merci beaucoup, Nicole. Tu nous as fait rêver un peu, comprendre un peu plus, parce que finalement, moi, je suis du côté des galaxies, là-bas, très loin, puis je me rends compte que le Soleil, j'y connais pas grand-chose. Donc, voilà, c'était très instructif, et je pense pour tout le monde. Alors, il y a quelques questions que j'ai relevées sur le chat. Maintenant, je vais arrêter de regarder le chat, parce que je peux pas tout faire, et je vais d'abord apporter le micro à ceux de la salle qui souhaitent poser des questions.
Merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais juste savoir si vous avez pu approximer sur un passage que vous allez faire où l'activité du soleil sera particulièrement importante.
Je pense que, donc, comme j'ai dit, il va y avoir 18 passages au périhélie. Donc la durée des orbites, je l'avais dans une autre version, c'est à peu près 150-180 jours. Donc il va y avoir donc de l'ordre de 2 orbites par an, on peut dire. Hein. Et donc là, quand on a lancé le satellite en 2020, on était proche du minimum d'activité solaire. Et là, l'activité du Soleil est en train de monter. Le prochain maximum d'activité, ça devrait être vers 2025-2026. Donc on aura Solar Orbiter. Donc après, la question, et ça c'est une mission assez compliquée. Je vais revenir à l'orbite, parce que quand on a donc les trois passages par orbite, donc c'est à peu près 3 fois 10 jours, hein. Bon, là, c'est un peu simplifié par rapport à la réalité. En fait, il faut programmer à l'avance quel programme d'observation on va mener avec les 10 instruments au moment du prochain passage proche du Soleil pour atteindre les objectifs scientifiques les plus intéressants en fonction de l'activité ou pas. Parce qu'il y a tous les instruments peuvent fonctionner ensemble, mais dans certaines circonstances, où, par exemple, il y a des coronographes où on peut dépointer finalement, on peut observer pas le Soleil au milieu, mais regarder un peu les bords. Ça, c'est intéressant pour certains sujets scientifiques, mais on ne peut pas faire ça s'il y a d'autres instruments qui fonctionnent parce que ça les perturbe trop. Donc, c'est quand même une organisation très compliquée, la gestion des observations avec Solar Orbiter, et ça s'est fait en collaboration avec tous les chercheurs et géré par l'Agence spatiale européenne. Il y a un groupe de travail exprès qui travaille sur que faire avec les instruments pour tirer au maximum profit de toutes les données en fonction de l'activité et de ce qu'on va avoir. Et puis, donc, les données, on ne les a pas forcément immédiatement. On a assez rapidement ce qu'on appelle les données de low latency, donc des données qui sont pas de très bonne qualité, mais qui permettent d'avoir des informations sur le fonctionnement des instruments et sur ce qu'on a observé. Mais les données scientifiques, quelquefois, elles arrivent plusieurs mois après, surtout quand le satellite est loin et qu'on est derrière le Soleil, ce qui est le cas en ce moment.
Merci.
D'autres questions ?
Alors, j'ai deux questions. La première, il me semble que vous avez dit qu'en 2001, le Soleil était au maximum de son activité, si j'ai bien compris.
Oui, tout
et
à fait.
On est sur des cycles de 11 ans.
À peu près, oui.
À peu près.
Oui.
Donc, si on reste sur des cycles de 11 ans, ça serait plutôt 2023, un nouveau maximum d'activité.
Oui.
Mais du coup, ce n'est pas exactement 11 ans.
Non, c'est à peu près 11 ans. Et puis, quand j'ai dit que c'était le maximum d'activité, c'est parce que c'était au milieu de l'image et qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'activité, mais le maximum, ce n'était pas forcément 2001, disons que.
D'accord.
Et les cycles, la durée des cycles, c'est de l'ordre de 11 ans.
D'accord. Et est-ce que l'activité du Soleil, c'est-à-dire quand il est à son maximum d'activité ou à son minimum, on peut le ressentir au niveau de la Terre ? Est-ce que ça a un impact ?
Alors, oui, il y a certaines choses. Alors, il y a effectivement un impact de l'activité solaire sur la Terre. Par exemple, la Terre est entourée donc à une atmosphère, et il y a une région de l'atmosphère qui est ionisée par les rayonnements X et UV qui viennent du Soleil. Et donc, quand le Soleil est actif, au moment du maximum d'activité, vous avez vu, la couronne elle est plus brillante, en gros. Donc, le Soleil émet plus de rayons X et UV, et donc ça ionise plus l'atmosphère de la Terre. Donc l'ionosphère, au moment du maximum d'activité ou du minimum, n'est pas la même. Et ces variations, donc il peut y avoir un impact donc, sur cette atmosphère ionisée de la Terre, en fonction donc, du cycle, mais aussi en fonction, si on a des éruptions, on peut aussi, quand on a des éruptions solaires, donc ce sont des événements qui sont beaucoup plus courts, qui peuvent durer de quelques dizaines de minutes à quelques heures, où on a une très forte augmentation du rayonnement ionisant en provenance du Soleil. Donc là aussi, ça peut affecter l'atmosphère ionisée de la Terre. Bon, ça, c'est un des effets. Vous avez vu que je vous ai vaguement évoqué le problème des particules énergétiques qui arrivent du Soleil et qui font de la neige là, sur nos détecteurs. Bah, quand elles sont... Alors, heureusement, la Terre est protégée par un bouclier magnétique. La Terre a elle-même un champ magnétique, donc on est protégé. Donc voilà, ça c'est le petit schéma ici. Si vous avez la Terre au milieu avec son champ magnétique, donc c'est un extérieur, c'est un dipôle qui est en fait déformé par le vent solaire qui vient donc du Soleil. Donc évidemment là, ce n'est pas à l'échelle hein, tout ça. Du côté du Soleil, on a une espèce de compression du champ magnétique. Et puis un étirement des lignes de chance, donc ça c'est ce qu'on appelle la magnétosphère. Donc ça nous protège, ça protège l'environnement de la Terre des effets du vent solaire, en grande partie, des effets des particules énergétiques. Mais il y a quand même, par exemple ici au niveau des pôles magnétiques terrestres, il y a des espèces de trous, donc il peut y avoir des particules qui rentrent ici, dans ces régions polaires, et qui peuvent là aussi ioniser l'atmosphère terrestre. Quand je vous ai parlé également des éjections de masse coronale, là, qu'on voit ces boucles-là, donc, qui se propagent et qui arrivent ici au niveau de la Terre, si elles sont suffisamment puissantes et si surtout le champ magnétique de ces nuages est inverse du champ magnétique de la Terre, là vous pouvez avoir donc, des phénomènes de reconnexion magnétique en amont de la Terre et donc il y a du plasma du vent solaire qui peut rentrer à l'intérieur de la magnétosphère. Et d'une manière plus générale, ces gros nuages peuvent perturber donc toute l'organisation du champ magnétique autour de la Terre. Il faut savoir aussi qu'autour de la Terre, c'est un énorme circuit électrique. Et donc, si vous avez des perturbations, ça peut entraîner des modifications, des légères modifications du champ magnétique de la Terre. Et c'est ce qu'on appelle des orages géomagnétiques. Donc, il y a des petites perturbations du champ magnétique, pas interne, hein, mais dans l'atmosphère. Et ça peut aussi créer des courants induits dans le sol et ça peut créer des problèmes sur la distribution électrique, comme il y en a eu dans les années passées à New York en août 72, au Québec, à Montréal en 89, etc. Donc il y a effectivement des choses qui peuvent arriver dans notre environnement terrestre en liaison avec l'activité solaire. Après, on peut dire, est-ce que ça a un effet sur nous ? Donc, je pense qu'on a toujours vécu avec l'activité solaire, donc effectivement, il y a peut-être un effet. Dans les anciens pays de l'Est, il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à regarder s'il y avait des corrélations entre l'activité solaire, les crises cardiaques, etc. Bon, ce n'est pas des choses que... Enfin, je ne suis pas au courant qu'il y ait beaucoup de recherches de ce type chez nous. Mais bon, on peut effectivement se poser ces questions.
Bonsoir, merci pour votre enthousiasme. J'ai une question sur la température à laquelle est soumise le satellite quand il arrive à proximité au 0,28 unité astronomique. Et aussi, qu'est-ce qui est l'élément limitant pour que la mission s'arrête en 2029 ? Est-ce qu'il y a des instruments qui vont griller ou il y a un refroidissement qui est plus fait sur certains instruments ?
Alors, la question, quelle est la température de la sonde ? Malheureusement, je l'ai oublié. C'est assez chaud. Et donc, quand on a eu la construction de la sonde, il y a eu toute une étude de thermique. Il y a un bouclier thermique. Voilà, heat shield. Oups. Ça y est. Il y a un bouclier thermique qui absorbe une grande partie de la chaleur. Ce bouclier thermique, il a fait l'objet de recherches. C'est pas du tout quelque chose de standard. Et finalement, ça a été créé par une compagnie au Royaume-Uni, si je me souviens bien. C'est très particulier comme matière pour absorber la chaleur. Donc, la plupart des instruments, en fait, sont derrière le bouclier thermique. Donc, on ne les voit pas, là. Et il y a juste des petites ouvertures pour laisser passer le rayonnement. Mais il y a quand même de gros problèmes de thermique. Alors, il y a une partie de la chaleur qui est rééjectée. Qu'est-ce qui peut arrêter finalement le fonctionnement de l'instrument ? On est quand même dans un milieu qui est un peu hostile en termes de chaleur, de radiation. Donc, il peut y avoir des instruments qui ont des soucis. La poursuite ou non d'une mission, c'est surtout lié en général à des questions de financement. Parce que ça coûte cher d'avoir ce type de mission. Donc, à un certain moment, on regarde si ça a un intérêt de poursuivre la mission ou pas. Et je crois, sauf si tous les instruments s'arrêtent, je pense que, étant donné ce qu'on commence à voir, je pense qu'il y aura un intérêt à la poursuivre. Mais bon, je ne peux pas savoir dès à présent. Mais on voit bien que, par exemple, SOHO, qui a été lancé en 1995, il y a encore deux instruments qui fonctionnent, et ça fonctionne toujours. Et il n'y a pas que les instruments de physique solaire qui poursuivent comme ça leur carrière.
Bonjour, bonsoir. J'ai une question, je vais pas si elle est bête, mais je vais quand même tenter. Alors, dans votre présentation, c'est principalement autour de l'atmosphère du Soleil. Et j'ai trouvé ça un peu perturbant, parce qu'à un moment donné, je crois vous avoir entendu dire que l'atmosphère du Soleil était un peu décorrélée de l'activité gravitationnelle du Soleil, ou qu'elle n'était pas maintenue par ça. Et du coup, je n'ai pas très bien compris comment ça se fait qu'elle y est toujours. Donc, je ne sais pas si vous pouvez apporter des éléments de clarification là-dessus.
Alors, ça, j'ai dit ça, c'était pour expliquer qu'il y avait une partie, ce n'est pas toute l'atmosphère du Soleil qui s'en va, mais elle n'est pas... Je veux dire, comme le milieu est très chaud, il y a une agitation thermique qui est assez importante, c'est une vitesse d'agitation thermique importante. Et cette vitesse d'agitation thermique, elle est supérieure, quand on fait des petits calculs de mécanique, elle est finalement supérieure à la vitesse de libération, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'atmosphère qui peut s'échapper. Mais ce sont les électrons qui sont les plus légers qui peuvent s'échapper plus facilement. Les protons, ils sont plus lourds, donc ils restent plus près du Soleil. Et donc, du coup, comme vous avez à ce moment-là potentiellement un déséquilibre de charge, il y a un champ électrique qui se crée et qui ramène les électrons vers le Soleil. Donc, en fait, on n'a pas perdu toute l'atmosphère du Soleil. C'était juste pour expliquer qu'on avait la possibilité d'avoir donc, de l'échappement de cette matière. Et non seulement c'est un échappement, comme j'ai dit, ce n'est pas une brise, c'est vraiment un vent, parce qu'il y a un processus d'accélération de cet échappement qui a été modélisé par Parker dans les années 60. Et on commence à effectivement voir que le vent solaire, il atteint sa vitesse asymptotique vers une dizaine de rayons solaires. Enfin, ça dépend des régimes. J'espère que ça clarifie.
Alors, on va donner un petit peu la parole aussi à ceux qui sont en ligne et qui ont suivi la conférence en ligne. Donc, il y a un certain nombre de questions. Bon, j'en choisis quelques-unes un petit peu arbitrairement, mais voilà. On ne peut pas toutes les faire parce qu'on ne peut pas rester là jusqu'à 6 heures du matin. Est-ce que le modèle de fusion solaire, même si les étapes de la fusion de l'hydrogène vers l'hélium sont vérifiées, est-ce qu'il y a une expérience continue en laboratoire qui permet d'expliquer ou de rendre compte de la fusion solaire?
Bah, je pense que la fusion dans le Soleil, c'est comme dans la fusion dans toutes les étoiles. Donc, après, dans le temps, il y a eu des expériences qui ont été faites. Il y avait une controverse parce que quand il y a des fusions d'hydrogène en hélium, on crée des neutrinos. Et quand on a commencé nos études, il y avait des désaccords entre ce qui était prédit par les modèles des étoiles pour faire la fusion de l'hydrogène en hélium et le taux de neutrinos qu'on pouvait mesurer. Effectivement, c'est très difficile de mesurer les neutrinos. Il y avait des désaccords. Donc, il y a eu de nombreuses expériences de neutrinos qui ont été faites ensuite. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste des neutrinos, mais je sais qu'il peut y avoir des oscillations entre différents types de neutrinos. Et une fois qu'on tient compte de ça, des oscillations de neutrinos de différents types, on peut trouver un accord. On a retrouvé un accord entre ce qui était prédit par les modèles de physique stellaire et les mesures. Mais voilà.
Ensuite, quelqu'un demande s'il y a des images en H-alpha.
Non.
Non,
pas d'images. Il n'y en a H-alpha. Pas. C'est peut-être bête. On aurait peut-être dû en faire, parce qu'effectivement, les images en H-alpha sont les images avec lesquelles on observe traditionnellement les éruptions solaires avec les instruments qui sont sur Terre. Et donc, c'est comme ça qu'on observe les éruptions. Mais il faut faire une sélection quand on fait des instruments. Et comme l'UV, on ne peut pas l'observer sur Terre, on favorise les observations en UV à bord de satellites. Et donc, l'observation, ce n'est pas une observation en H-alpha, mais ici, avec l'instrument UV, vous avez des observations en Lyman alpha, qui est aussi une raie de l'hydrogène, mais qui ne montre pas du tout la même chose et qui est une raie UV ou extrême ultraviolet.
Ensuite, le Soleil change-t-il de taille ?
Il y a eu des expériences, effectivement, qui ont regardé l'évolution du diamètre du Soleil, mais en gros... Oui, il peut y avoir. Il y a eu des mesures qui ont été faites dans les années précédentes avec des sondes pour mesurer l'aplatissement du Soleil, les variations du diamètre en fonction de l'activité, oui. Mais c'est très minime.
Alors, peut-être une dernière question là. Comment expliquer la pénombre des taches solaires qui migrent et qui ont un cycle ?
Ah ! Alors. Comment expliquer les taches solaires qui migrent ? Alors. Oui, effectivement. Donc, j'avais sur le film. Je peux retourner à ce. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que. Alors là, c'est, je ne sais pas quel quand c'est ça. C'est doit être au moment d'un maximum, effectivement. Donc, les régions actives. Zut, les régions actives, elles sont situées à des régions de latitude particulière dans l'hémisphère, dans le Soleil. Et quand on est en début de cycle d'activité, en fait, les régions actives apparaissent plus près des pôles. Et quand le cycle d'activité évolue, les régions actives sont plus proches de l'équateur. Donc, je ne sais pas si c'était ça la question, mais ça, c'est lié au cycle d'activité solaire. Et en fait, comment on explique ça ? Ben, il faut expliquer donc, la génération du champ magnétique et aussi sa dissipation. Et ça, c'est expliqué en général par les mécanismes dynamo qu'on fait pour expliquer la génération du vent solaire. Donc, c'est des transformations de champ magnétique toroïdal en poloïdal qui font cette évolution. Donc là, je n'ai pas du tout parlé de dynamo pendant mon exposé, mais bon.
Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être dans la salle ? Non ? Oui.
Bonsoir, merci pour votre présentation. Il me semble qu'il y avait une autre sonde qui avait été lancée par les Américains, le Parker Solar Probe, je crois, c'est ça, en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Est-ce que ces expériences sont complémentaires du Solar Orbiter ?
Alors, effectivement, ça j'en ai un petit peu parlé de Parker Solar Probe. Donc, effectivement, c'est tout à fait complémentaire et elles ont été lancées à 2 ans de différence. Alors, Solar Orbiter, c'est une beaucoup plus grosse mission que Parker Solar Probe. Il y a 10 instruments à bord, avec donc, comme j'ai dit, combinaison d'instruments de télédétection et des mesures in situ. Et on se rapproche moins près du Soleil que la sonde solaire, donc Parker Solar Probe, qui est beaucoup plus légère, qui n'a que 4 instruments à bord. Et ce sont essentiellement des instruments qui mesurent in situ. Il y a un imageur héliosphérique, comme je vous ai montré aussi à la fin. Et donc, ce sont des mesures, des instruments pour mesurer les paramètres du milieu très proche. En fait, elles sont complémentaires et on travaille avec les Américains de Parker Solar Probe. Là, je pense que dans les jours qui viennent, il va y avoir un nouveau périhélie de Parker Solar Probe. Je pense que maintenant, elle s'est approchée du Soleil à moins de 10 rayons solaires de la surface. Et donc, quand on a parlé tout à l'heure de la programmation des observations avec Solar Orbiter, quand il y a la programmation des observations avec Solar Orbiter, on regarde aussi où est Parker Solar Probe par rapport à Solar Orbiter, parce que dans certains cas, il y a des quadratures, donc on peut observer des phénomènes à 90 degrés. Dans certains cas, il peut y avoir des alignements, donc ça permet de mesurer le plasma très proche du Soleil et de le comparer avec ce qui se passe un petit peu plus loin. Donc oui, il y a beaucoup de complémentarité entre les deux missions.
Eh bien, il nous reste à remercier Nicole pour cette belle conférence. Et donc, nous vous donnons rendez-vous dans un mois, le mardi 4 octobre. Ce sera Clotilde L'Aigle, jeune chercheuse à l'IAP, qui va nous parler de cosmologie et de la distribution de matière entre les galaxies. Bonne soirée à tout le monde.